Bienvenue sur la balado d'Édouard, podcast exploratoire où à chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de balado basée sur les éléments retenus de ce mode exploratoire.
Aujourd'hui, on rencontre Alexandre Provost. Salut Alex!
Salut Eric!
Ça va bien?
Ça va toi? Mais là, est-ce qu'il faut que je t'appelle Édouard?
Non, en fait, ben, tu peux m'appeler Ed.
OK.
Ed, ouais, Edouard, c'est mon petit surnom de micro,
si tu veux. Okay.
Mon petit surnom de podcasteur. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux m'appeler Patate Poilue, si tu veux.
Non, c'est correct.
En passant, c'est pas un podcast d'humour, fait que oui. J'en sortirai pas trop souvent comme ça. Okay. En fait, je t'ai invité pour le podcast. Je m'intéresse beaucoup à la course d'expédition. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais ça qu'on le définisse parce que les gens confondent souvent les courses à obstacles, ça peut être le triathlon, ça peut être d'autres types de courses. Donc, c'est quoi exactement la course d'expédition ou la course d'aventure, ce que tu fais?
La course d'aventure, c'est c'est des défis multisports qui sont généralement... En fait, qui sont à la base non motorisés, bien sûr.
OK.
Et qui impliquent généralement au moins trois sports nature, c'est-à-dire être à pied, être en vélo et être sur l'eau.
Ouais.
À ça, souvent, se greffe, peut y avoir des sections de cordes, peut y avoir. Dans le temps, il y a eu des sections de rollerblade. Il peut y avoir d'autres types d'embarcations sur l'eau, il peut y avoir...
En général, c'est une course en plein air. Là.
C'est d'abord et avant tout une course en plein air, puis c'est une course, je te dirais que l'idée de base, c'est l'appréciation de la nature, OK? Parce que c'est une course qui se passe du début à la fin à l'extérieur.
Ouais.
Et puis, en fait, l'élément central aussi là, que je n'ai pas mentionné encore, c'est que ça se passe en total ou en fait en autonomie au niveau orientation.
Okay.
Les équipes, c'est un sport d'équipe. Y a des variantes au niveau catégorie, c'est sûr. Il y a des courses solo, mais je veux dire... La base de la course d'aventure, c'est vraiment un sport d'équipe. Fait que c'est quand on parle de course d'aventure, de course expédition, qui est juste un peu plus long, c'est d'abord et avant tout un sport d'équipe où on doit cheminer du départ à l'arrivée en passant par différents points de contrôle. À l'aide d'une carte et d'une boussole, sans aide, sans GPS, sans application et sans aide extérieure.
Mais ça, c'est très important ce que tu dis, là, si je le compare, moi, aux différentes courses, que ce soit le triathlon, l'Ironman ou même les courses à obstacles où tout est balisé, tout est segmenté, il y a des repères partout, c'est hyper contrôlé. Là, c'est-à-dire que tu peux même savoir si tu t'entraînais à seconde près quasiment... ton point d'arrivée, là, tu sais, si tu fais ta performance comme prévu, là. Puis, tu sais, tu mentionnais le point de navigation, là. Moi, ça me rappelle un peu, pour simplifier, tu sais, quand on était enfant, des fois, j'ai eu ces cours-là, je me souviens, moi, dans des camps de vacances où on te donnait une boussole, une carte. Évidemment, il y avait des clôtures, on voulait pas que les enfants se perdent dans le bois. Puis, il y avait un instructeur, il disait, on part d'un point A à un point B, faut trouver le point B, puis les gars, allez-y, je vous laisse, là, vous avez une boussole, je vous l'ai montré, vous avez votre carte, puis vous naviguez dans un sentier off-road, ça peut être, vous prenez comme référence, je sais pas moi, le certain sommet des arbres, des lacs, des rivières, c'est un peu ça dans le fond, là. J'imagine que quand tu fais de la navigation, sans te demander tes secrets puis que comment tu procèdes. Moi, c'est ça qui me fascine, t'as pas de GPS là, c'est tout c'est comme à l'ancienne, c'est comme les coureurs des même les coureurs des bois avaient pas de boussole, je
pense. Les coureurs des bois avaient pas de boussole, c'est ça qui est impressionnant. au moins nous on a une boussole puis une carte, mais oui, effectivement, c'est ça, c'est à la base du sport, c'est de pouvoir s'orienter et d'amener et de cheminer en lisant le terrain, en utilisant les features du terrain en utilisant la carte, la boussole, les coéquipiers, le travail d'équipe pour arriver ben, le plus rapidement possible au fil d'arrivée. En respectant les règles, évidemment, donc en passant du point de contrôle A au point de contrôle B, etc., etc. Okay. Puis chaque course a des règles un peu différentes. Tu peux arriver à un endroit où est-ce que tu arrives avec ton vélo, tu laisses ton vélo, puis là, bon, ben, tu as une section d'orientation à pied. Ça peut même des fois être un relais par endroit.
Ouais.
Mais tu sais, fait que chaque course est un peu différente, a ses propres règles et a sa propre saveur, ce qui fait que il n'y a pas de... je donne l'exemple, en fait, des fois en triathlon, effectivement, tu as une distance olympique qui est toujours pareille, ouais. Peu importe où est-ce que tu vas. Ben, une course d'aventure, une course expédition, chaque course est différente en distance, en discipline, puis en longueur et tout ça. Là. Fait okay. que c'est vraiment ce qui donne un peu, je te dirais, à chaque fois, c'est le fun et c'est nouveau là, parce que on l'a pas fait. Là.
J'aurais aimé ça y aller chronologiquement, mais tu sais, tu as fait beaucoup de courses, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de contenu. J'aimerais ça qu'on parle de la course de la Patagonie, qui Curry appelle His Brand comme la dernière course sauvage, la fameuse course d'expédition de la Patagonie que tu as fait en 2018.
Ouais.
Tu l'as gagné, là. Commençons par le punch.
Ouais.
Ton équipe l'a gagné.
Ouais.
On s'entend là que c'est une des courses les plus dures ou les plus extrêmes au monde. Tu peux-tu nous résumer c'était ouais. quoi comme genre de course? Puis...
En fait, je vais même revenir un peu 2 ans avant, en 2016. En 2016, on était allé, j'étais allé avec des gens, mes coéquipiers de Bend en Oregon à ce moment-là. Ouais. Donc, avec Chelsea, Jason et Dan.
Ouais.
Et puis, en fait, Jason avait eu un problème. On était en première place pendant plusieurs jours, mais Jason avait un problème de hanche. Puis, ultimement, ça a fait en sorte qu'il a fallu arrêter la course parce que là, il nous restait une très grosse section de trek et Jason ne pouvait plus trekker du tout. Là.
Okay.
Il ne pouvait plus avancer. Fait que là, tu sais, c'est sûr que devoir arrêter en première place, tu l'as un peu sur le cœur. Fait que là, est arrivée l'occasion en 2018 d'aller se reprendre. Puis là, Dan ne pouvait pas y aller. Et puis, notre ami danois, Lars, était disponible. Donc, on est retourné, Jason, avec une nouvelle hanche. Et puis, Chelsea, et Lars et moi.
Ouais.
Donc, en 2018, un peu avec le couteau entre les dents pour essayer de s'en faire. Puis finalement, il y avait des bonnes équipes. Il y avait entre autres Vidared qui est là, qui est une des meilleures équipes au monde. Là. Fait que, puis même, je pense qu'en arrivant là-bas, eux se disaient que c'était un peu dans la poche. Là,
ah ouais, à ce point-là. Ouais. Okay.
Okay.
Mais pour donner l'envergure, là, parce que tu en parles comme si c'était une marche dans le parc, là, mais j'utilise rarement ce mot-là, mais c'est incroyable. Là. Okay? C'est 650 km en 6-7 jours environ.
Ouais, je pense qu'on a fait.
Ben, comme tu as dit, là, ça peut être à pied, en canot, en trekking, en vélo de montagne. Là, tu pourras m'en parler, mais il y a différentes disciplines ou différents moyens de transport utilisés durant la course pour faire d'un checkpoint à l'autre. Tu sais, fait que durant cette course-là, tu as fait quoi plus que 100 km par jour? C'était-tu principalement à pied? Puis tu sais, on s'entend que souvent, j'entends que ce soit de voyageurs, pas juste de gens qui font des courses, mais que la Patagonie, c'est comme un des endroits les plus beaux au monde. Fait que toi, t'es allé faire, on dit, 650 km au travers des paysages sauvages à courir d'un point à l'autre sans il y a pas de jeep là, il y avait pas d'hélicoptère pour vous dépanner, il y avait pas de non
effectivement oui. C'était assez c'est vrai que quand ils disent que c'est the last wild race, la dernière course sauvage, c'est vrai que ça feel comme ça en tout cas.
Mais tu sais, en rafale là, mettons là t'es 650 km mettons en rafale là.
Ouais.
Par quoi t'as passé au travers de quoi dans cette course?
Ah, écoute, en fait, en Patagonie, c'est beaucoup ce qu'on appelle En français, c'est une espèce de tourbe flottante. OK.
OK. Donc, c'est des terres humides un peu.
C'est des terres humides. Okay. Puis okay. Là, bon, ben, les treks, dans les treks, il y a énormément de terres humides. Fait que là, t'es okay. toujours un peu dans. En anglais, c'est du turball. Okay. Fait que là, on est dans cette espèce de terre humide-là, turball-là, qui fait que quand tu treks, tu renfonces toujours un petit peu. Puis wow. évidemment, t'es toujours mouillé. T'sais, en course d'aventure, faut pas que t'aies peur d'être mouillé parce que t'es comme mouillé.
Faut que t'aies peur des ampoules aux pieds.
Non, c'est ça. Mais ouais. en fait, c'est que tu sais que ça va arriver, mais c'est juste que ça te prend un plan de match pour le gérer.
Ouais.
Faut pas se laisser surprendre par ce genre de choses-là.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est le genre de choses qu'on prépare en amont puis tout ça. Mais effectivement, en Patagonie, les paysages étaient grandioses. On est passé sur des montagnes, on est passé sur un passage très haut en montagne où est-ce qu'à un moment donné, a fallu sortir les crampons et les piolets parce que la pente était extrêmement raide.
Okay.
Puis en fait, à ce moment-là, c'était la première nuit, on était devant, puis on était comme « Oh shit, si on passe ça, je suis pas certain que les autres vont nous suivre. » En fait, on voyait pas les gens derrière, mais bon, on savait que Vidared était pas très loin derrière. Puis on a passé cette première difficulté-là, je te dirais, non sans y laisser de l'énergie, parce que je me souviens que Chelsea pleurait au sommet de la montagne là, en traversant. Mais après ça, en descendant, on a repris le vélo, on est parti. Et plus tard, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est ça qui a créé un écart avec Vidared qu'on a pu comme sur lequel on a pu surfer quand même un bon bout là, fait qui nous a amené jusqu'à la fin.
C'est
que...
le si tu veux le coup de force du début qui nous a permis de garder le cap puis de
effectivement.
De gagner
puis
la
en
course.
Fait le coup de force du début nous a aussi donné de l'énergie parce que là on s'est rendu compte que effectivement on avait quand même un bon gap. Et puis après ça, ben on est resté très focus sur notre but à atteindre qui était de remporter cette course-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, Lars, c'était sa première fois en Patagonie.
OK.
Il avait déjà couru une autre course en Patagonie un peu en préparation, mais Jason et Chelsea, je pense que c'était leur sixième tentative à cette course-là.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est un peu, en fait, tu sais, c'est une course qui est très, très importante pour eux aussi parce que c'est là que Jason a proposé à Chelsea. L'a demandé en mariage. C'est une course qui fait partie de.
Pour eux, ça a beaucoup de valeur, c'est
pour
une symbolique.
Ça a une énorme valeur sentimentale. Wow, fait, ouais, eux étaient extrêmement motivés à cause de ça. Nous, on était super motivés parce que ça allait bien. Moi, j'étais motivé parce que on l'avait échappé en 2016, fait que là,
en passant,
bonnes raisons.
On ne l'a pas encore dit, moi je le sais, puis j'ai fait une recherche, puis j'ai lu là-dessus, puis j'étais au courant un peu des courses là avant de te rencontrer aujourd'hui, mais toi, t'es le chef d'équipe, mais à ce moment-là, t'étais le chef d'équipe. Est-ce que je le nomme comme faux? Ou, en fait, t'es spécialiste navigateur, faut le dire, là.
Ouais.
Toi, t'es spécialisé là-dedans,
ouais.
Puis je comprends que... Si je compare encore à d'autres disciplines, tu sais, on veut pas comparer, mais moi j'aime comparer parce que j'aime beaucoup la course d'aventure. Là. C'est ça, le navigateur est important, en fait très important. Puis je pense que vous hésitez à dire chef d'équipe parce que peut-être que dans la culture de ce milieu-là, l'équipe est très forte. Puis ça se peut-tu que ça soit l'équipe avant le. Tu sais, je sais pas si je le nomme bien.
Ouais.
Là, mais...
En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est que. Effectivement, il y a une culture d'équipe, en fait, dans moi un des points importants aussi quand je course, c'est qu'on a vraiment une culture d'équipe, c'est pas, on n'impose rien, on est quatre personnes et chacun a des rôles qui sont tous aussi importants que les autres. Bon, moi, souvent, j'ai le rôle de navigateur. Je l'ai pas tout le temps et à tout moment. Parce que des fois, on s'échange des affaires. Mais je te dirais, en Patagonie, j'ai peut-être navigué un 60-70% de la course.
OK.
Lars et Jason ont navigué le reste un peu. Fait que
Parce que je me dis, tu sais, je suis dans l'hypothétique, moi je n'ai jamais fait, mais écoute, une erreur de navigation, ça peut être fatal. Là.
Écoute,
t'imagines, tu contournes un lac ou tu montes la montagne,
oui.
Ça peut être, je pars à la course, puis même je me perds dans le bois carrément.
Et j'en ai fait, hein. Ben oui.
OK, mais ça m'intéresse.
Ben oui, on l'a fait, puis et j'en fais encore.
Donne-moi un exemple d'une erreur de navigation, puis d'un bon coup de navigation que tu as fait, sans révéler tes secrets, parce que ça doit pas être évident là, de... La méthode de repérage là, avec une carte et une boussole.
Non, puis en fait, à cela...
Puis là, t'es pas sur le Mont-Royal. Là. Faut comprendre que des fois, t'es à l'autre bout du monde. T'es jamais allé. T'as pas loué de chalet là 2 semaines avant pour étudier le terrain.
Exactement.
T'es quasiment parachuté dans jungle ou dans forêt.
Ouais.
Vas-y donc avec tes exemples.
En fait, souvent, naviguer pour quelqu'un qui s'y connaît un peu, c'est relativement simple quand... Il fait clair et quand les conditions sont bonnes et quand on a dormi la veille. Mais là, à ça, en course expédition...
Ça, c'est la première journée.
Habituellement, la première journée, ça va bien.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça roule, puis on avance bien, puis tout le monde va bien. Mais là, plus ça va, plus il faut prendre soin de nous et faire attention à notre navigation, et surtout la nuit. Parce que là, évidemment, les lumières se ferment, on n'a plus les repères.
Ouais.
Fait qu'il reste moins de repères, il reste la boussole, il reste autre chose, mais il en reste pas mal moins pour se repérer et prendre les bonnes décisions. Bon, évidemment, j'en ai fait plein d'erreurs. On est déjà arrivé sur le mauvais lac. On est déjà arrivé sur...
Parce qu'un lac peut ressembler à un autre lac.
Un lac peut ressembler à un autre lac. Surtout en plein milieu de la nuit, où est-ce c'est difficile d'évaluer la taille du lac parce que là, tu vois pas super bien.
J'imagine, surtout que c'est un couvert nuageux puis t'es pas éclairé par la lune. Hein, ça doit être... t'as juste tes frontales, j'imagine. Pis,
absolument.
Là, tu vois pas l'environnement. Tu vois juste 8 pieds, 10 pieds devant toi.
Et surtout, je te dirais, tu sais, ici au Québec, en Amérique du Nord, quand on navigue en forêt...
Ouais.
Ben là, il y a juste des arbres autour de toi, tu sais. Et puis la nuit, là, tu vois, excuse-moi l'expression, mais tu vois fuck all. F all, effectivement. Fait que c'est pour ça que, naviguer, quand il y a un couvert comme ça, il faut utiliser d'autres trucs-là.
Si je te ramène à la course de la Patagonie en 2018, ça a bien été, vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné à... Ben, tu m'as dit au début que vous avez pris de l'avance, tout ça.
Ouais.
Y a-tu d'autres facteurs, y a d'autres choses? Avec le recul, tu dis, on a gagné, ça, c'était un bon coup. Mais aussi, je sais pas, on était bien préparés, on a pris des décisions avant la course, C'est quoi les facteurs de réussite dans une course comme ça? À part le coup de maître que vous avez fait au début, là, y a-tu des petites choses? Je pense que c'est peut-être des petites choses, des fois,
qui font que... Oui, je te dirais que c'est beaucoup l'expérience.
OK.
Parce que... une équipe, puis là, je parle un peu de Vidared parce que sont connus un peu pour ne pas dormir beaucoup. Pour même
j'avais cette question-là,
Que en Patagonie,
c'est
extrêmement difficile d'avancer la nuit. Contrairement à d'autres courses expéditions où souvent on skip la première nuit, on peut des fois skipper la deuxième nuit. Puis après ça, on dort un peu, mais on dort où on peut.
C'est un des plus gros choix stratégiques, j'imagine. On dort-tu ou on dort pas?
Exactement.
Puis là, c'est la gestion de l'énergie, j'imagine.
Exactement. Tu sais, c'est parce que il faut que tu trouves le bon endroit pour dormir.
Ouais.
Faut dormir la bonne durée, etc.
Ouais.
Fait que en Patagonie, on avait un plan de match, je te dirais, de dormir pratiquement. En fait, je pense qu'on l'a pas dormi la première nuit parce qu'on a fait un bon push. On a de l'énergie quand même. Ça sonne un peu drôle, là, mais la première nuit, on a toujours de la difficulté à dormir parce que On est excité, on a...
T'es fébrile.
On est fébrile, puis...
T'es pas chez vous non plus, en fait, comme t'arrives d'un hôtel, d'un autre pays, première nuit, c'est hors, tu dors bien, là, fait, j'imagine
c'est vrai,
que dans le bois d'une tente... Je dis ça, puis je suis même pas certain que vous avez des tentes.
On n'a pas vraiment de tente.
C'est question stupide, c'est pas, mais moi, je suis jamais allé, pas. Là.
Mais tu sais, peut-être qu'on reviendra au matériel après,
ouais.
Mais je te dirais que, surtout que cette première nuit-là en Patagonie... Ben, on était dans la neige, fait que ça nous tentait pas non plus de se coucher dans, dans la neige. Mais après ça, on avait une stratégie de sommeil qui était à toutes les nuits. Puis là, quand, ça a l'air drôle à dire, là, mais un 2 heures, ou on a peut-être dormi 3 heures une nuit.
Ouais.
Ce qui est, ça sonne pas beaucoup, là, mais en course expédition, 2-3 heures par nuit, c'est des grosses nuits.
Ah ouais,
fait,
oui. C'est peut-être un minimum qui fait que tu es capable d'aller un peu plus fort puis d'avoir ta tête.
Exactement.
Aussi, j'imagine, parce que
exactement.
C'est plus juste une condition de physique d'être capable d'avancer. Mais
exactement.
Tu parlais de navigation tantôt, mais moi, je sais bien que ça fait 2-3 jours, j'ai pas dormi. Puis il faut que je produise un travail intellectuel ou que je lise quelque chose, que j'aille travailler. Écoute, je serais pas la moitié de moi-même. Là.
Ouais.
Je veux dire, il faut que je fasse des choses mécanique, des choses que j'ai répétées des centaines de fois pour être efficace puis pas faire d'erreur.
Ouais.
Fait que j'imagine que moi ça me fascine ça. Puis en fait, en faisant la recherche, j'ai regardé un petit peu l'entraînement des Navy SEAL, des bérets verts. J'ai regardé le type d'entraînement vraiment extrême là. Puis écoute, c'est extrême les Navy SEAL là, mais tu sais, je voyais qu'ils dormaient pas sur 5 jours, mettons. Mais là, la Patagonie, on se parle d'une semaine quasiment sans dormir 2-3 heures par nuit.
Mm-hmm.
Écoute, ils plongent dans l'eau froide pendant des heures, ils font courir sur la plage avec un bateau sur la tête, ils font transporter pendant 12 heures de temps des billots de bois, tu sais, ils sont réputés comme pour être l'entraînement ou le parcours, si tu veux, le plus terrible ou le plus extrême au monde, mais sans vouloir comparer, là, tu sais, on s'entend-tu que vous êtes pas dans un milieu en état de guerre, puis avec du monde qui vous crée après, là, tu sais, ça se compare pas, mais non. En termes de vous pousser à vos conditions, dans des conditions extrêmes, écoute, moi, je revenais pas, là, j'étais allé voir les trainings des Navy SEAL, puis j'ai dit, écoute, Alexandre, d'une semaine, il en fait peut-être 2 fois plus que ça. mais je veux pas te lancer de fleurs, faut juste comme bien saisir l'envergure de ce que tu fais comme course, là.
Ouais.
Puis si je ramène ça au sommeil, tu sais, eux autres, dans le training, je lisais, ils dormaient pas plus que 2-3 heures, je pense que c'était 2 heures par, puis en fait, c'était fragmenté parce que ce qui est crissant, désolé pour le mot, là, c'est que il les laisse dormir 1 heure, puis après 1 heure et demie, ils réveillent en sursaut comme pour simuler un état de guerre où tu peux être appelé à être au meilleur de toi-même n'importe quand. Là. Ce qui fait que il disait que les gars, je pense après la 3e ou 4e journée, écoute, ils étaient comme des zombies. Tu aurais pu leur faire n'importe quoi sous l'autorité ou... Il y en a même qui s'endormaient dans leur canot, pas leur canot, excuse-moi, c'est comme des embarcations gonflées, là,
mm-hmm.
Genre de petits, du mini-rafting, je sais pas comment t'appelles ça, là, dans le militaire. Puis le gars qui écrivait, qui rendait son histoire par rapport à ça, il expliquait que même des fois, il fallait qu'il donne des claques d'en face à ses collègues parce qu'il s'endormait dans le bateau, puis il risquait de se noyer. Mm-hmm. C'est incroyable. Hein? Comment tu gères le manque de sommeil? Moi, je pense que... Il y a des affaires dans ce que tu décris que je serais capable d'oser, d'essayer de faire. Maintenant, je veux dire, ça peut-être. Mais pas dormir pendant. Ben là, tu dis, parce qu'on viendra à l'autre course après, là. Mais déjà sur une semaine, 7 jours, dormir 2-3 heures par nuit, pour moi, c'est presque inimaginable. Là.
Ouais.
Y a-t-il des états de détresse des fois?
Oui, ou... non, mais on voit plein de choses. Hein? Puis en fait, ce que...
Tu veux dire réel ou...
Ah ben, les deux. Okay. Parce que ce que tu disais, des gens qui s'endorment en canot, des gens qui s'endorment en vélo, des gens qui s'endorment à pied, ça, on l'a tous fait plusieurs fois. Là.
Ah oui?
Oui, absolument. Moi, puis en fait... Puis, ben, en fait, le défi, c'est un peu justement d'essayer de maximiser ton efficacité pendant que tu es réveillé et que tu as un minimum, que tu es fonctionnel un minimum. Okay. Mais quand on devient plus fonctionnel comme ça, c'est là qu'il faut s'arrêter pour mettre un peu de sommeil en banque. Puis quand on revient en Patagonie, effectivement, on voulait pas se rendre à cet état-là, donc on prévoyait dormir un petit peu, tu sais, de façon régulière.
Mais c'est là, c'était l'impératif de la course qui permettait de le faire.
Oui, ben qui permettait, oui, mais peu, en même temps, on dort dans la tourbe mouillée, là. il faut se rappeler que là, on est pas
mouillé tiède, mouillé tiède ou mouillé frette.
C'est mouillé frette, c'est mouillé frette quand même. Mais tu sais, on avait amené ce qu'il fallait. On était équipé au minimum parce que évidemment, faut traîner le matériel, mais équipé assez et plus que d'habitude pour justement pour pouvoir dormir.
Parce que là, pendant ces jours, j'ai lu que tu transportes, c'est des sacs de 60 livres, je pense, que vous transportez environ en moyenne, 50-60 livres.
Non, non, c'est quand même moins. Non, okay. c'est moins que ça. Écoute, 60 livres, c'est beaucoup.
Non, mais écoute, je l'avais dans mes notes, c'est peut-être mon erreur, mais peut-être les Navy Seals qui transportent 60 livres.
Non, mais effectivement, je pense que c'est les Navy Seals parce que... Écoute, honnêtement, j'ai pas regarde, je connais pas beaucoup le training des Navy Seals, mais
non, mais tu transportes un gros sac à dos.
Je suis certain que c'est extrêmement difficile, puis honnêtement, j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça, là.
Mais en revenant à ce que tu transportes, toi, c'est à peu près combien pendant ces
jours? En moyenne, on essaye de garder ça à 10% de ton poids.
OK.
Parce que, tu sais, c'est toujours... il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus parce qu'on devient inefficace. Fait que le poids du sac varie aussi en fonction de la force de chacun. Donc, et varie en cours de route aussi. Parce que si, à un moment donné, moi, ça va moins bien, ben ça se peut très bien que je donne une partie de ma charge à mon coéquipier qui va très bien à ce moment-là. Puis c'est un peu la beauté du sport où est-ce que... on avance aussi vite que ce qu'on peut en équipe et non pas juste chacun qui essaye de traîner tout son stock par lui-même.
C'est des choix stratégiques.
Ben, c'est des choix stratégiques, mais je te dirais que ça dénote une équipe dysfonctionnelle si tu n'es pas en mesure de partager à la fois... Ton plaisir, mais ton malheur aussi en même temps. C'est pour ça que je te dirais que quand on parle d'expérience et tout ça, ben tu sais, ça fait quand même longtemps que je cours, puis tu sais, j'ai fait plein... On a eu plein de succès, mais on a eu plein d'échecs aussi, puis on apprend à travers ça. Fait que tu sais, il y a plein de fois où est-ce que probablement, moi, je voulais entraîner un peu trop, puis j'ai cassé un peu, ou j'avais un peu trop d'ego, puis je disais « non, je suis correct ». Finalement, j'étais pas si correct, et c'est la même chose pour mes coéquipiers. Fait qu'on apprend de ça, puis essaye de pas répliquer ça.
Non, c'est ça. C'est beaucoup d'expérience d'une course à une autre. Fait que... Tu sais, dans le fond, t'as fait la course la plus sauvage au monde, qui est une des courses mythiques, là, je pense, en course d'aventure. D'ailleurs, moi, en français, on lit beaucoup course d'aventure. En anglais, je vois beaucoup course d'expédition. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu utilises? Juste pour qu'on j'utilise la bonne expression.
Je te dirais que je pense que le terme course expédition commence à peu près à deux, tu sais, pour une course de 48 heures, j'ai déjà vu le terme course expédition.
OK.
48 heures et plus, puis là, bon, ben après ça, ça peut aller. Je te dirais que maintenant, des courses de autour de 6-7 jours, il n'y en a pas énormément, mais ça arrive encore.
Mais si je te présente, mettons, je sais pas, des amis, des collègues, toi, est-ce que tu préfères personnellement que je dise Alexandre Provost, lui, fait des courses d'aventure, il fait des courses d'expédition.
Ouais, je pense que le terme général, course d'aventure, ça résume bien. Ouais.
C'est,
ouais.
Euh, c'est bien, ça montre bien l'idée de ce type de course-là. Fait que t'as gagné, ben votre équipe, c'était quoi le nom de l'équipe à l'époque?
Okay. Fait que le nom de l'équipe avec qui je cours depuis quand même quelques années maintenant, c'est Bend Racing. Bend, c'est le nom de la ville en Oregon où sont basés mes coéquipiers.
Qui
eux aussi sont aussi organisateurs de courses là-bas, qui organisent leur course expédition qui s'appelle Expédition Oregon.
OK. Moi, quand j'ai lu le nom, c'est avec cette équipe-là que tu as gagné la course de la Patagonie en 2018.
Ouais, je dirais que je cours avec eux on and off, mais de façon assez régulière, là, je te dirais depuis 3 ans, depuis 2016. Ouais.
Est-ce que ça renvoie au nom de la ville? Moi, quand j'ai lu ça, je pensais que c'était, tu sais, bending, se pencher, se courber face au vent. Tu sais, je pensais que c'était un peu ça. ça aurait pu être une deuxième signification. Fait que tu as gagné cette course-là. Puis si les producteurs, les organisateurs de cette course-là se vendent d'être la course la plus sauvage au monde, ben il y a les organisateurs ou en tout cas ceux qui s'occupent de la course. En fait, c'était-tu l'Eco Challenge de la Patagonie?
Non.
C'est ça. Il y a ceux qui organisent l'Eco Challenge, qui ont organisé la fameuse course en 2019 aux îles Fidji, qui se vantent eux d'être la course la plus tough au monde. Fait que t'as gagné la course la plus sauvage au monde. Mais ensuite, t'as fait la course la plus tough au monde. Ma première question, je te disais, est-ce que c'était vraiment ta course la plus tough de toute ta vie ever?
La course à Fidji, c'était extrêmement difficile. Je peux pas dire que c'était la course la plus tough. Je te dirais que la course en Patagonie, c'est celle. T'sais, en fait, il y a plusieurs façons d'évaluer difficile, tough, mais mettons que si je l'évalue sur mon état à la fin de la course, je te dirais que j'étais plus magané en Patagonie. Là. Mais il y a plusieurs raisons pour ça aussi. À Fidji, il y avait des arrêts obligatoires. On avait une équipe de support aux transitions, etc.
Mais avant de plonger dans le parcours de la course aux îles Fidji, je vais juste donner en rafale une couple de chiffres là, parce que c'est impressionnant. En fait, c'est acheté par terre. Là. D'ailleurs, c'est ça. La course a été filmée. Il y a un docu-série sur Amazon Prime Video qui existe, que moi je me suis tapé. Je pense en 3 soirs, c'est 10 épisodes, puis c'est pas pour les plugger, là, c'est parce que ça donne une très, 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 très bonne idée de ce genre de course-là, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y avait jamais eu autant de contenu de tournage aussi précis d'une course sur de longue haleine comme ça. Là.
Absolument.
C'est une méga production, il faut dire, qui était achetée par Amazon.
Oui, c'est une méga production. Il y avait beaucoup de contenu qui était essentiellement ciblé sur... Je pense qu'il y a une dizaine d'équipes, là.
J'en reviendrai au casting puis tout, mais je veux pas trop parler de l'émission parce que c'est ça, c'est Amazon qui l'a produit. Puis moi, je veux plutôt savoir ce que toi, t'as vécu durant la course. Parce que sur 66 équipes, bien entendu que sur 10 épisodes, c'était concentré plus sur les équipes américaines, faut dire. Anglo-saxonne, là, New Zealand, Australie, tu sais, c'est pour beaucoup le marché anglophone. Ouais. Là, fait que c'est un choix de cast, c'est un choix de production. Là, écoute, tu connais sûrement les chiffres, mais ça va peut-être te rappeler des bons ou des mauvais souvenirs. OK, on se parle d'une course sur 11 jours de 671 kilomètres dans la jungle, aux îles Fidji. Là. La jungle, l'océan, les rivières, certains villages, des sentiers, mais c'est loin d'être en milieu urbain. Il y avait 66 équipes. Ça, je l'ai pas dit, mais c'était en 2019, hein, c'est ça. Fait que c'est un an après l'expérience de la Patagonie. Il y avait 31 checkpoints répartis sur 5 grands segments, qu'eux appellent des legs. Là. Fait que le parcours, là, je te le redécline, tu dois le savoir par cœur. Moi, quand j'ai refait l'exercice, là, ça me... Parce que, OK, juste une petite parenthèse. Moi, j'ai écouté les 10 épisodes en rafale, puis c'est super bon. Là. La réalisation est bonne, le casting est formidable, c'est du drame, c'est du... Autant on voit les prouesses techniques, les prouesses d'aventuriers, mais tu sais, c'est un show de TV. Là. Fait que on voit beaucoup de drames, beaucoup de catastrophes, tout ça. Mais des fois, je te dis, c'est dur à suivre pour quelqu'un qui n'a pas fait le parcours et qui n'était pas sur place, parce qu'à la première journée, ça va. T'as une carte, puis c'est bien réalisé. Fait que là, on voit les parcours, les segments. Bon, vous partez en rivière, puis après ça, c'est... Vous allez à l'océan sur la petite île, puis vous revenez. Là, après une journée ou deux, là, t'as 66 équipes, là, qui sont... Il y en a qui sont rendus super loin, il y en a qui sont encore au début. Fait qu'après deux, trois épisodes, là, je t'ai dit, là, comme... Puis, écoute, j'étais à jeun quand j'écoutais. tu suis plus pantoute, pantoute. Ouais. Ce que tu suis, c'est des êtres humains, c'est des expériences, mais le parcours, tu le perds de vue complètement. Fait que quand je me préparais pour le podcast, j'ai fait... Non, je pourrais pas reconstituer chronologiquement le parcours de 600-700 km. J'ai des flashs, je me souviens à peu près. Fait que là, j'ai fait l'exercice, OK? Je te redonne ça, puis quand tu vas être tanné, arrête-moi, OK? OK? Le parcours, premier segment, l'océan. 65 km de Kamako, c'est une espèce de petite embarcation locale, sur rivière et dans l'océan. 20 km de randonnée à pied jusqu'à l'île Lulia. Après ça, retour sur l'île en Kamakau. Ça fait partie du 65 km du début. Ensuite, 30 km de paddleboard sur une rivière. Ensuite, 56 km de vélo de montagne en sentier et ou dans la jungle. Là, c'est juste le premier segment. Après ça, deuxième segment, la jungle. 12 km de randonnée en canyon, 45 km de navigation en radeau fabriqué localement là, en bambou sur une rivière, 40 km de vélo de montagne en sentier, route et jungle. Je me souviens d'avoir vu des villages aussi là, fait que je pense que c'est hybride. Ensuite, troisième segment, la rivière, 63 km de vélo, 30 km de rafting, 50 km de trekking, de la randonnée en fait dans la jungle. On continue?
Ouais.
Tu peux m'arrêter si tu veux, OK? Ouais, je veux juste comme le faire au complet, ça va à peine.
C'est qui me revient.
C'est ça que je vais aller picosser. Ouais. Ensuite, quatrième grand segment, les hautes terres. En passant, c'est mes traductions, là. J'ai pris ça du site officiel en anglais. 1000 pieds d'ascension d'escalade de la Vuwa Falls, qui est une espèce de gros chute, là, cascade, qui est une des épreuves les plus assassines, entre guillemets, là, de la course selon l'animateur. En tout cas, tu pourras m'en reparler. 9 km de nage dans des rivières très, très froides. Là, je pense que c'était à 10-15 degrés, si je me souviens bien. 16 km de paddleboard. 50 km de randonnée en montagne. Et puis là, le cinquième et dernier segment de l'île, 77 km de vélo. 60 mètres d'escalade. 12 km de paddleboard. Et puis 45 km de navigation en canot sur l'océan jusqu'au point d'arrivée qui est une petite île, le Mana Island. Quand t'es arrivé là, à fil d'arrivée, là, ça te tentait pas de faire 150 burpees juste pour le fun? c'est olympien, c'est grandiose, je te le dis pas parce que t'es là, puis moi ça me jette à terre. J'en reviens pas que quelqu'un en 11 jours fasse tout ça sans presque pas dormir. Comment t'as vécu ta course?
Merci d'avoir écouté la balado d'Edouard. À chaque production, je proposerai un récit d'événements sur des enjeux et sujets d'intérêt public qui m'interpellent. Au terme de l'exercice, je lancerai une production de podcast basée sur les éléments retenus. Je vous invite à suivre la balado d'Edouard sur SoundCloud, Instagram, Reddit et la balado du Québec. Au plaisir de s'y retrouver.